VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 14 décembre 2015. Au sommaire ce soir...
République centrafricaine, le référendum constitutionnel se poursuit exceptionnellement dans les zones touchées hier par des violences.
Je pense que ça ne vient que renforcer une perception déjà négative que les Sud-Africains ont de leur président.
Trois ministres des Finances en une semaine, vous venez de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? On en parlera tout à l'heure. Burundi, sur fond de violence et d'insécurité, le procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté de mai dernier s'ouvre à Bujumbura. La Guinée accueille plusieurs chefs d'État africains pour la prestation de serment du président Alpha Condé, réélu en octobre dernier.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Référendum constitutionnel en République centrafricaine. La population a voté hier, sauf dans certains secteurs de Bangui où l'insécurité a interrompu le processus et dans des villes de province où le groupe armé de Noureddin Adam a empêché le déroulement du scrutin. Pour une mise à jour sur la situation, nous avons en ligne notre envoyée spéciale, Tatiana Mousso. Salut Tatiana. Est-ce qu'on a Tatiana ?
Bonjour.
Bonjour Tatiana.
Bonjour, je vous entends.
Alors, quels sont les derniers éléments de l'actualité à Bangui?
Alors écoutez, on s'y attendait un petit peu et ça a été accepté. Ce sont les dérogations pour pouvoir continuer de voter aujourd'hui. Il faut savoir qu'hier, il y avait plusieurs retardataires au bureau de vote, mais surtout des gens qui n'ont pas pu aller voter puisqu'il y a eu des violences dans certains bureaux de vote, dans certains centres. Donc aujourd'hui, il était permis, notamment... TK5, donc ce quartier musulman de la capitale Bangui, de pouvoir continuer de voter. Les gens ont été votés ce matin, ils ont continué à voter cet après-midi. Par contre, dans le centre du pays, c'était beaucoup plus délicat. Dans des villes comme Kaga-Bandoro, ça a été compliqué ce matin. Les opérations ont dû commencer tard et elles devraient se poursuivre jusqu'à demain.
Alors Tatiana, est-ce que cela va retarder la publication des résultats?
Alors évidemment, cela va retarder le processus à la fois de rapatriement des résultats, de dépouillement des résultats. Il faut savoir que hier tard dans la nuit, nous avons pu assister à un convoi de la MINUSCA qui escortait des urnes qui revenaient jusque aux autorités nationales des élections. Les résultats étaient prévus pour dans une semaine après le scrutin, c'est-à-dire le scrutin a eu lieu dimanche, donc dimanche prochain. Malheureusement, cela va prendre beaucoup plus de retard que prévu parce qu'il faut permettre à tout le monde de voter voilà. Le plus possible et ensuite il faut évidemment rapatrier les résultats.
Merci Tatiana Mousso, notre envoyée spéciale à Bangui qui sera encore en notre compagnie en seconde partie d'émission.
Au Burundi, ouverture du procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté en mai dernier, un procès qui met en relief la profonde division de l'armée burundaise. Idriss Fall.
Un de leurs avocats, Maître Onésime Kabaya-Baya, a déclaré que le procès s'est ouvert à Gitega, dans le centre du pays. Il précise qu'il n'a pas pu parler à ses clients ni accéder à leur dossier. Agnès Bangiri Tchenge, porte-parole du ministère de la Justice, dit que le groupe est accusé d'avoir tenté de renverser les institutions et d'avoir perpétré des assassinats et d'autres actes de violence. Parmi les accusés, le général Cyril Ndaï Roukié, ancien ministre de la Défense, et 5 autres généraux, dont le colonel à la retraite Bosco Daradangwa. Plusieurs leaders du coup d'État avorté du 13 mai dernier sont toujours en fuite. Depuis l'échec de ce putsch, le général Godefroy Niyombare n'est pas réapparu en public et n'a fait aucune déclaration. Mais le général Léonard Nganda Komana assure qu'ils n'ont pas baissé les bras et chercheront à renverser le président Pierre Nkurunziza. Vendredi, des combats ont opposé les loyalistes et les insurgés dans la capitale. Près de 90 personnes sont mortes, des civils pour la plupart.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a prononcé aujourd'hui son discours annuel devant les parlementaires réunis en congrès. Le point avec Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Parlant des élections qui doivent être organisées l'année prochaine, le président de la République a évoqué des changements à effectuer sur les modalités de vote Il s'est prononcé pour le vote électronique qui permettrait de réduire substantiellement le coût des opérations électorales. À propos du dialogue national réclamé par l'UDPS, le parti de Thien Tshisekedi, qui exige qu'il soit convoqué par le facilitateur qui doit être désigné par les Nations Unies, Joseph Kabila a souligné que les solutions du pays ne viendront pas des Nations Unies.
Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais.
Sur le plan sécuritaire, le président de la République a reconnu la présence de quelques groupes armés qui sèment encore l'insécurité à l'est de la RDC. Roger Kalala de Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Et concernant l'est de la RDC, au moins un civil et trois militaires ont été tués hier soir lors d'une attaque à Oicha, dans le territoire de Beni. Assaut attribué aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, d'après l'AFP, citant des sources concordantes. L'attaque aurait duré 3 heures jusqu'à ce que les assaillants soient repoussés par l'armée congolaise.
Le mouvement chiite du Nigeria accuse les troupes nigérianes d'avoir tué plusieurs centaines de ses membres dans la ville de Zaria, située dans le nord du pays. D'autres sources parlent de 20 morts. Salwa Jafari.
Tout a commencé, selon la version des militaires en tout cas, quand les membres du mouvement islamique du Nigeria ont monté des barricades, puis commencé à jeter des pierres sur le convoi du chef d'état-major. Tentative d'assassinat, selon l'armée, ce qui expliquerait l'opération d'envergure qui suivit. Parmi les victimes, l'épouse et les deux fils du leader du mouvement, Ibrahim Zakzaki. Il faut dire que les tensions entre chiites et militaires ne datent pas d'hier. Zakzaki lui-même a été emprisonné à plusieurs reprises. Le président du Forum des médias du mouvement islamique du Nigeria a affirmé, selon la presse locale, que le siège du Forum ainsi que la résidence du chef chiite ont été détruits. Ces meurtres étaient si brutaux, même les personnes blessées dans la fusillade ont été identifiées et tuées de sang-froid par des soldats, peut-on lire sur le communiqué du groupe. Le mouvement islamique du Nigeria est minoritaire dans ce pays où plus de 4 musulmans sur 5 sont sunnites. En juillet 2014, un accrochage entre l'armée nigériane et le mouvement islamique du Nigeria avait déjà causé une trentaine de morts du côté du groupe chiite.
Attaque contre le nouveau siège du parti au pouvoir au Niger, un site qui est encore en chantier à Niamey. Un policier a été blessé par 3 hommes armés de fusils d'assaut, a indiqué la police nigérienne. On ignore pour le moment le mobile de cette attaque confirmée pour VOA Afrique par le porte-parole de la police nationale, le capitaine Adili Touro.
Ce jour, 14 décembre 2015, vers 1h du matin, le nouveau siège du PNDS Tareya a fait l'objet, une fois de plus, d'une attaque par des individus non identifiés, malgré la présence des éléments de la police nationale. Le bilan de l'attaque est d'un blessé par balle côté police, évacué aux urgences de l'hôpital national de Niamey. Il est à noter que 16 douilles de AK-47 ont été trouvées sur place, et selon les premiers résultats de l'enquête, les assaillants étaient scindés en 3 groupes. Le premier groupe, dont l'assaillant est habillé en tenue treillis, a pris position au niveau du cinéma Zabarkan. Le deuxième groupe, à bord d'une moto Cassia, et le troisième, à bord d'une Mercedes noire qui s'est positionnée à l'angle contigu à la compagnie de transport et de voyage de Africa Asalam. Les investigations sont toujours en cours pour identifier et neutraliser les assaillants.
Le porte-parole de la police nationale du Niger au micro de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa. Sachez aussi que le président Alpha Condé a prêté serment en Guinée. Plus de 10 chefs d'État africains ont fait le déplacement aujourd'hui à Conakry pour assister à la cérémonie. Âgé de 77 ans, le président a été réélu en octobre pour un second mandat de 5 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crash d'un avion de touristes russes dans le Sinaï le 31 octobre dernier. L'Égypte réaffirme ne pas avoir de preuves qu'un attentat à la bombe est à l'origine de l'incident qui a fait 224 morts, souvenez-vous. Les enquêteurs russes prétendent le contraire, de même que la branche égyptienne du groupe État islamique qui dit avoir placé une petite bombe à l'intérieur de l'appareil.
Une quinzaine de personnes ont été blessées, dont un bébé d'environ 1 an gravement, ce lundi à Jérusalem-Ouest, dans une nouvelle attaque à la voiture Bélier, dont l'auteur palestinien a été abattu. Selon la police, 11 autres personnes ont été légèrement blessées. Jérusalem avait déjà été le théâtre d'une attaque à la voiture Bélier le 6 décembre. 3 personnes avaient alors été blessées.
Et deux tiers des Palestiniens sont favorables à un soulèvement armé de type intifada plutôt qu'aux négociations avec les Israéliens pour faire avancer leur cause. C'est ce qu'indique un sondage publié aujourd'hui. Les territoires palestiniens et Israël sont en proie depuis des semaines à des violences qui ont fait 117 morts palestiniens et 17 Israéliens, ainsi qu'un Américain et un Érythréen, selon un des comptes de l'AFP.
Heurts entre la police et des manifestants pro-kurdes en Turquie, des protestataires dont plusieurs députés qui dénonçaient le couvre-feu dans un quartier de Diyarbakir ont tenté d'entrer dans le district Sour, théâtre depuis le début du mois de violents affrontements entre les forces de sécurité et de jeunes partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Avec nous en studio, John Lindon.
En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a renvoyé dimanche son ministre des Finances, David Van Rouwen, 4 jours après une nomination qui avait provoqué des soubresauts sur les marchés, a annoncé la présidence. C'est un ancien titulaire du poste, Bravin Gordhan, déjà ministre des Finances pendant 5 ans jusqu'en 2014, qui a été renommé pour remplacer David Van Rouwen. Critiqué par les analystes et dans les médias, la décision de Zuma avait plongé l'économie sud-africaine dans l'incertitude.
Et on reste en Afrique du Sud, John Lindon.
Pour signaler que Tiger Brands va revendre sa filiale nigérienne à Dangote, rachetée pour environ 200 millions de dollars en 2012, le groupe agroalimentaire va revendre ses 65,7% du capital au groupe du Mayen nigérien Ali Dangote pour leur ancien actionnaire majoritaire pour un dollar symbolique. Mais le milliardaire nigérian devra injecter immédiatement dans la société la somme de 10 milliards de naira, soit environ 50 millions de dollars.
Et dans le secteur minier?
Dans le secteur minier au Sénégal, le Sénégal veut relancer le projet Falémé, selon le magazine Jeune Afrique. Et malgré une conjoncture très défavorable pour les mines de fer, Dakar multiplie les initiatives pour relancer le projet de Falémé. Celui-ci avait été arrêté après que des contentieux judiciaires ont opposé l'État sénégalais au Sud-Africain Kumba Resources et au Franco-Indien ArcelorMittal.
Merci John Lindon pour la Minute Éco.
Et John cède la place tout de suite à Eric Manirakiza pour notre page sport. Alors, salut Eric.
Bonjour Gabi, bonsoir l'Afrique.
Et on parle de foot mondial de club, le TP Mazembe n'a pas fait long feu ou Idrissa Seloudia dirait a fait long feu.
Ouais, une déception en tout cas. Le Mazembe a encaissé 2-0 devant Sanfrecce Hiroshima du Japon, une équipe pourtant jugée la plus faible avant la compétition.
Plus quand on ne réussit pas, Eric, on fait long feu. Supercoupe du Mali, victoire du stade malien.
Oui, le stade malien de Bamako a battu les 11 créateurs de Niarela, 4 tirs au but à 2. Après le temps réglementaire, le score était 0-0. C'était hier au stade de Mamadou Konaté à Bamako.
Toujours en Afrique, on connaît les postulants au titre de joueur et d'entraîneur africain de l'année.
La Confédération africaine CAF l'a annoncé aujourd'hui. Yaya Touré, quadruple lauréat en titre. Le Ghanéen André Ayou et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund sont les 3 prétendants dans la catégorie des joueurs qui évoluent en dehors du continent.
Et prix du joueur évoluant en Afrique ?
Les 3 finalistes sont Bagdad Bounedjad, qui est algérien, il joue à l'Étoile du Sahel, Mbwana Ali Samanta, tanzanien de TP Mazembe, et Robert Kidiaba, ivoirien de TP Mazembe.
Et côté entraîneur, Eric ?
L'entraîneur de la Nessera a choisi entre Baïba, Mali, Emmanuel Amunike, Nigeria, Fawzi Banzerti, étoile sportive du Sahel, Hervé Renard, Côte d'Ivoire et Patrice Carteron, TP Mazembe. Et c'est le 7 janvier 2016 qu'ils sont reconnus à Abuja, au Nigeria, après le vote.
Alors, basket professionnel nord-américain, après les matchs disputés dimanche, résultat et classement rapidement ?
Miami a battu Memphis 197, Toronto, Philadelphie 96-76, Oklahoma City a battu Utah 104-98, Phoenix, Minnesota 108-101. Et pour la conférence Est, le premier c'est Cleveland, deuxième Toronto, conférence Ouest, Golden State bien sûr, et San Antonio en deuxième position.
Eric Manirakiza, ne pas rater à 19h, temps universel dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux de commencer la semaine en votre compagnie, Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil. Morgane, on passe tout de suite au dossier du jour.
Oui, première escale, la République centrafricaine. Référendum constitutionnel dans ce pays. La population a voté hier, sauf dans certains secteurs de Mangui où l'insécurité a interrompu le processus et dans des villes de province où le groupe armé de Noureddin Adam a empêché le déroulement du scrutin. Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale sur place, revient sur les faits marquants de cette journée électorale.
Alors, le premier fait marquant de cette journée électorale, évidemment, c'est la violence qu'il y a eu dans le quartier de PK5, un quartier où vivent les derniers musulmans de la capitale, un quartier où les bulletins de vote ainsi que tout le matériel électoral a été acheminé très tard, d'où une ouverture tardive, un quartier où il y a eu des coups de feu nourris pendant quasiment la moitié de l'après-midi, même des hauts gradés de la MINUSCA qui se sont rendus sur place ainsi que des officiels centrafricains se sont retrouvés pris entre deux feux, parce qu'il faut bien comprendre qu'au PK5, à ce moment-là, il y avait une partie des habitants qui votaient oui pour la Constitution, qui avaient envie de voter du moins, et d'autres qui voulaient s'opposer au vote, donc ils ont semé des troubles. Des troubles qu'on aura retenus aussi dans le reste du pays, comme par exemple dans les villes de Bria ou encore de Kagabandoro. Et on peut aussi mentionner la ville de Bossangoa où le matériel électoral n'a pas pu être mis en place parce que d'autres gens se sont aussi opposés en armes, bien entendu, se sont aussi opposés au vote.
Alors, quel impact cette situation aura sur le référendum, sur sa crédibilité ?
Alors, il faut savoir que ce référendum devait servir de test, un test grandeur nature pour les autorités de transition qui souhaitent aller aux élections et ainsi mettre fin à cette période de transition. Il faut noter que le plus important, c'était aussi que de pouvoir réunir tout le fichier électoral centrafricain. Beaucoup de citoyens n'ont pas pu aller se rendre aux urnes, un, pour des moyens, pour des raisons sécuritaires, et deuxièmement, pour des raisons techniques, parce que beaucoup n'avaient que des récépissés, d'autres n'avaient pas compris l'enjeu de ce scrutin, l'enjeu de ce référendum, puisque certains pouvaient nous dire encore hier et aujourd'hui, puisqu'on a continué de voter aujourd'hui, que malheureusement, ils ne comprenaient pas exactement la raison pour laquelle ils votaient, mais que pour la présidentielle, oui, ils iront voter.
C'est justement la question que d'aucuns se posent, Tatiana. Est-ce que le pays sera prêt pour la présidentielle dans seulement 2 semaines ?
Alors effectivement, le délai est assez court. Les autorités nationales des élections nous l'ont rappelé encore. Le délai de 2 semaines est très court, mais ils veulent absolument tenir le calendrier. Ici à Bangui, ce soir, les différentes autorités autour des élections sont encore en train de travailler sur le résultat de ce référendum. Il faut savoir que des dérogations ont été accordées pour pouvoir continuer de voter encore aujourd'hui dans certaines régions. Ici à Bangui, dans certains bureaux de vote, on continuer de voter cet après-midi. Alors, est-ce qu'ils auront fini à temps le dépouillement du référendum pour pouvoir installer le premier tour de la présidentielle ? Écoutez, ici, on essaye de tout faire pour que oui, mais certains observateurs vous disent que le scrutin qui a été assez difficile et complexe hier ne laisse pas présager un scrutin plus facile, ou du moins pour le premier tour de la présidentielle.
Merci Tatiana Mousseau, envoyée spéciale de VOA Afrique à Bangui, en RCA. Nous allons maintenant au Burundi, ou plutôt au Rwanda. Les Burundais réfugiés au Rwanda sont recrutés par des groupes armés en violation du droit international. C'est ce que dénonce Morgane, l'ONG Refugees International, qui appelle dans un rapport publié aujourd'hui la communauté internationale à sanctionner les responsable.
Oui, et dans ce rapport intitulé « Droit d'asile mis à mal, recrutement de réfugiés burundais au Rwanda », l'ONG américaine pointe du doigt le recrutement de réfugiés burundais à l'intérieur du camp de réfugiés de Mahama, dans le sud-est du Rwanda, par des groupes armés non étatiques, dont le recrutement d'enfants. Le gouvernement rwandais a démenti le contenu de ce document. Pour faire le point, Jacques Aristide s'est entretenu avec la co-auteure du rapport, Francisca Vigowash.
Il faudra que je clarifie d'abord qu'on n'est pas en train d'accuser le gouvernement rwandais de recruter des réfugiés. En fait, on ne fait que partager tous les détails des allégations qui ont été partagées avec nous, avec le but que ça soit investigué. Sur quoi est-ce que ça se base? Au moins 50 réfugiés qui ont cherché de la protection dans les camps de Mahama, les camps des réfugiés au Rwanda, et le nouveau camp des réfugiés burundais, plus 30 réfugiés qui sont devenus des combattants, il paraîtrait, et qui ont été en train de transiter, être transportés vers le Burundi, mais ils ont été arrêtés par les forces nationales et congolaises, et le FARDC. Donc, on a eu accès à tous les témoignages de ces à peu près 80 réfugiés, y compris des enfants.
Nous savons que le gouvernement burundais avait déjà reproché au Rwanda d'accueillir des opposants burundais et de laisser faire le recrutement d'opposants dans ces camps. Mais la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de même que sa collègue en charge des réfugiés, ont formellement démenti ces allégations. Avez-vous pu recueillir la réaction de Kigali à votre rapport ?
En fait, ce que nous avons fait, nous avons pris comme une réponse officielle le discours assez long qui a donné la ministre en charge des affaires des réfugiés, qui était publiquement délivrée devant la presse internationale. Et puis, aujourd'hui déjà, le gouvernement rwandais a réagi à notre rapport et a démenti les allégations à nouveau.
Brièvement, quelles sont vos recommandations?
Numéro un, on est déjà au sixième mois de ces allégations et à chaque fois, le gouvernement rwandais réfute les allégations d'un seul coup. On aimerait bien que le gouvernement rwandais prenne ces allégations sérieusement et travaille avec le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, le HCR, pour investiguer ces allégations et donner des protections aux camps et aux réfugiés dans les camps. Et deux, le HCR doit augmenter leur présence de protection. Ils doivent embaucher plusieurs agents de protection pour travailler dans les camps, pour voir ces cas et essayer de donner de protection aux réfugiés burundais. Et troisièmement, c'est la responsabilité du gouvernement rwandais assurer le caractère civil du camp des réfugiés pour les protéger étant donné que ces réfugiés sont sur leur terrain. Ils doivent assumer cette responsabilité.
Voilà, c'était Francisca Vigo-Walsh, co-auteur du rapport.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Cap maintenant sur le Cameroun, où le gouvernement a demandé aux agriculteurs de ne rien planter pour la prochaine saison jusqu'à ce qu'ils puissent s'assurer qu'il y aura assez de pluie. Le climat, plutôt imprévisible ces dernières années, s'est traduit par de longues sécheresses et de faibles productions. Voici, rendu par Idrissa Seloudia, un reportage réalisé à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, par Moki Edwin Kinzeka.
Ndoukong Kennedy, 42 ans, élève des poulets à Santa dans la banlieue de Babenda. Il cultivait auparavant de l'arachide, mais a connu deux mauvaises récoltes consécutives dues à une pluviométrie insuffisante. Les pluies commencent d'habitude au mois de mars.
Final rain came about end of April and the sun was hot.
Les pluies ne sont venues qu'à la fin d'avril et le soleil était tellement chaud qu'il a, pour ainsi dire, fini par frire l'arachide sur place. Nous avions l'habitude de préparer nos champs pendant la saison sèche en sachant que les pluies commenceraient le 15 mars. Mais maintenant, on ne sait plus. Henri Mouma Awa, le principal responsable gouvernemental chargé de l'environnement à Bamenda, a demandé aux agriculteurs de ne rien planter en 2016 jusqu'à ce qu'il leur donne le feu vert.
There's confusion in the rainfall pattern
Il y a confusion sur la pluviométrie. Avant, nous savions que nous avions une saison sèche et une saison des pluies précises. Maintenant, rien n'est plus très certain. Le rendement a baissé pour certaines cultures à cause de cette situation. Les températures ont aussi augmenté à cause du déboisement abusif et il y a beaucoup de CO2, de gaz carbonique, dans l'atmosphère. Selon les Nations Unies, la température moyenne par an a augmenté de 0,7 degrés Celsius depuis les années 1960. Pendant la même période, les pluies ont baissé de 2,2% par décennie. L'écologiste Nestor Bouma blâme l'homme pour cette dégradation. Plus de 80 à 90% de la population utilise du bois pour satisfaire ses besoins énergétiques. Cela pousse la population locale à abattre des arbres et conduit à un usage abusif du bois dans les foyers. Dépendant de la région, on commence à planter de la mi-mars à juin au Cameroun. Il est difficile de dire combien d'agriculteurs sont affectés par l'appel des autorités d'attendre leur feu vert. Mais 70% des 22 millions de Camerounais dépendent de ce secteur primaire, dont beaucoup dans l'agriculture de subsistance. Pour le moment, le Cameroun ne signale pas de pénuries alimentaires aiguës, mais il y avait un déficit céréalier de 200 000 tonnes l'année dernière. Les prix des haricots, de la pomme de terre et du maïs ont augmenté de 25% ces dernières années, selon le gouvernement, à cause d'une stagnation de la production dans certaines régions.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Trois ministres des Finances en Afrique du Sud en l'espace d'une semaine. Sous la pression des milieux financiers et de l'ANC, sont partis le président sud-africain Jacob Zuma, a rappelé dimanche à ce poste Parvin Gordhan en remplacement de David Van Rooyen, lui-même nommé quatre jours plus tôt. Le limogeage de leur prédécesseur, M. Néné, avait fait chuter la monnaie nationale, le rand, à son plus bas niveau de l'histoire. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï a joint David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études et de la sécurité de Pretoria.
Pravin, c'est l'ancien directeur des impôts, nommé déjà ministre des Finances sous le premier mandat de Jacob Zuma. C'est un monsieur qui est perçu comme, sans une certaine intégrité, et surtout un réformiste, qui devait mettre de l'ordre dans les finances, et c'est lui qui rassure un peu le marché. Depuis la crise qu'il a opposée à Jacob Zuma sur la compagnie South African Airways, la compagnie aérienne sud-africaine, Gordhan a été remercié sans autre forme de procès. Et malheureusement, ces derniers temps, je crois qu'avec des problèmes que Zuma a eu sur la même compagnie South African Airways, son remplaçant a été viré, un autre David Rooyen qui a été nommé, suscitant vraiment la colère des Sud-Africains et des partenaires de l'Alliance tripartite, ce qui a obligé Zuma à revoir sa décision et à faire revenir Pravin Gordhan à la tête des finances de l'Afrique du Sud.
Trois ministres des Finances dans l'espace d'une semaine, qu'est-ce qui explique cette instabilité de l'action du président Zuma?
C'est d'abord une décision émotionnelle, une décision personnelle qui a été prise sans consultation des membres de son cabinet. Et cette décision que d'aucuns percevaient comme anticonstitutionnelle a suscité des réactions très négatives à son égard, même au sein même de son propre parti, exposant en tout cas sa fragilité et craignant de se voir isolé, surtout de donner du contenu aux appels pour sa destitution qui se font de plus en plus fort. Je pense que Zuma a fait semblant de donner l'impression qu'il a écouté les réactions de son peuple et qu'il a essayé de rajuster son tir.
Le président sud-africain sort nettement affaibli de cette situation. Qu'est-ce que cela augure pour son action future?
Je pense que ça ne vient que renforcer une perception déjà négative que les Sud-Africains ont de leur président. En plus de 56 et 60% des Sud-Africains pensent que Jacob Zuma n'est pas tout à fait capable de diriger l'Afrique du Sud.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. À la mise en onde de Lionel Gaïmat, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.